On y va pour les deux plats du jour.
Je peux goûter comme ça?
Oui, 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 bien sûr.
The menu, please.
Oh, tu trouves ça?
Hé, hey, regardez! C'est des salicornes!
Oh. Oui, 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 oui.
Ah, des cornichons de la mer, ça peut être super bon avec le poisson, non?
Ça se mange.
Bah bien sûr, ça se mange.
À partir du moment où une algue est accrochée, vous pouvez tout goûter.
La mer descend, elle, tous les jours?
Deux fois par jour.
Il y a quelques heures, il y avait à peu près 8-9 mètres d'eau, 10 mètres d'eau. Sans un espèce de bouillonnement, parce qu'on a l'impression de faire son marché, on fait de la pêche sous-marine, sans avoir les inconvénients de la pêche sous-marine.
Oh, voilà ce qu'on cherche, en plus grand bien sûr, hein. Un petit tourteau. Les étrilles, les crabes, les homards se cachent sous ce genre de pierre.
Comme j'ai fait dire à Pierre Dac, la pêche à pied a ceci de particulier, que c'est le seul mode de pêche qui se pratique uniquement à la main.
Ben, ça saute pas dans le panier, donc faut y aller.
Il fait beau à Saint-Malo et je crois que le public de Saint-Malo est chaud. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup. Ah ouais, je vous mentais pas quand je vous disais que le public de Saint-Malo était chaud. Bienvenue à Étonnant Voyageur, 29e édition. Ce festival international du livre et du film se déroule ici dans la cité corsaire jusqu'à demain soir. Et à cette occasion, on va déguster Dresse le Couvert en direct et en public depuis le palais du Grand Large, rotonde sur Couf, pile poil face à la mer. Ça tombe bien, certains de nos invités ont une relation intime et sentimentale à la mer, vous allez le comprendre. Alors mon premier est cuisinier amateur, chroniqueur, auteur d'un petit livre pour lequel j'ai eu un sacré coup de cœur en 2017. Je m'étais promis de l'inviter un jour au micro dont on va déguster, rien que son titre est tout un voyage, récit et recettes du Ressac. Il fallait quand même le trouver, ce titre. C'est une jolie allitération pour un livre sur la pêche à pied aux éditions de l'Épure. Et c'est Patrick Cadour. Bonjour.
Salut.
Merci Patrick d'être là. Vous avez d'autant plus de mérite que vous nous venez de très, 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 très loin.
Je viens du bout du monde, c'est le nom du Finistère, donc pour me situer, c'est à Brest, sur la côte, nord, oui. dans les Abers. Et c'est mon terrain de jeu pour la pêche et d'autres activités depuis que je suis né.
Vous êtes levé un peu tôt ce matin du coup?
Ouais, mais ça c'est pas grave.
Bon bah c'est bien, vous êtes avec nous et c'est l'essentiel avec un beau discours sur la pêche à pied. Le Ressac, elles connaissent puisqu'elles ramassent et cuisinent des algues à Saint-Lunaire. C'est pas très loin d'ici. Leur petite entreprise artisanale s'appelle Algue Emeraude. Nathalie Hamon et Nathalie Hameline, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alias les nattes.
Voilà, tout à fait.
Voilà, deux nattes qui n'en font qu'une.
Tout à fait, toujours ensemble.
Toujours ensemble, l'une à la cueillette, l'autre à la cuisine voilà. des algues. Ouais. On va voir ça avec
tout,
vous.
Ouais.
Et passionné avant tout, ça on va s'en apercevoir ouais. assez rapidement. On a découvert, figurez-vous, vos excellents produits, notamment un tartare d'algues, grâce à notre troisième invité, celui qui met en valeur dans son excellente crêperie vos produits très très iodés. C'est un infatigable sélectionneur de produits durables et locaux. Il les sert dans ce qui est pour nous l'une des meilleures crêperies de Bretagne, Grain Noir, en plein centre de Saint-Malo, intramuros. Bonjour Romain Diop.
Bonjour.
Vous Merci. En salle. Et votre femme Marie Trop, Obilig, à qui on rend hommage. Elle fait un travail exceptionnel, elle est dans la salle, on peut l'applaudir. Elle fait un travail tout à fait bluffant sur la pâte qui est légèrement croustillante et moelleuse entre les deux. On a encore eu l'occasion de s'en apercevoir hier soir puisqu'on était avec toute l'équipe au sein de cette petite crêperie de 28 mètres carrés Grain Noir. Et dans un article que je vous ai consacré, j'ai surnommé votre galette la complète de compète. Ouais, et vous allez comprendre pourquoi. Ils sont du voyage, les chroniqueurs dont on va déguster, Elvira Masson et Antoine Gerbel. Bonjour à tous les deux.
Bonjour à tous.
Bonjour les Malouins.
Elvira Masson,
oui.
combien d'étonnants voyageurs ensemble?
C'est notre troisième, non?
Absolument, et on s'en lasse pas.
Et on est très heureux d'être là encore,
et
évidemment.
Et à chaque fois de très belles découvertes au sein de ce festival.
Oui, et là en l'occurrence, j'ai eu un coup de cœur pour un livre dont l'auteur est peut-être dans la salle, je crois, Michel Kahn.
Oui, est-ce
C'est
qu'elle
l'histoire...
est là?
Ah, elle devait bon, passer, ah bah non, passer. Finalement non.
Bon.
C'est l'histoire d'un berger des montagnes suisses devenu confiseur des rois. C'est une histoire extraordinaire, je vais
un
vous raconter.
Un roman pour ouais. lequel vous avez eu un coup de cœur. Antoine Gerbel, dans nos verres.
Dans nos verres, on va voyager, c'est normal, autour d'un produit très local qui est la moule. Et la moule, elle a un petit goût de curry, et le curry, c'est le voyage. 3 vins pour voyager.
3 vins pour Moulet Pénard. À la barre de cette émission, notre réalisatrice Laurent Thomas, Nadia Chougui, Alexandre Martin, Yvan Turc, Gilles Manet et toutes les équipes de Radio France. ICO, la serviette autour du cou, cap sur Saint-Malo.
Sur France Inter, avec plusieurs de bisbouderies, on va déguster.
Traditionnelle question, lorsque nous jetons l'ancre dans une région de France ou une ville, s'il fallait donner envie à nos auditeurs, au hasard, de Savoie ou de Corrèze, de débarquer à Saint-Malo. Est-ce que vous auriez comme ça une seule raison à nous citer, à part évidemment le Festival International du Livre et du Film où nous sommes, étonnant voyageur, fondé par Michel Lebris, faut-il le rappeler, 29e édition, dont la programmation ne faiblit pas d'année en année. Une autre raison pour venir à Saint-Malo, Patrick Cadour.
Moi j'ai un souvenir d'enfance, ce sont les Capelans.
Ah, de quoi s'agit-il ?
Le capelan est un petit poisson qui ressemble à un spra, qui était pêché à Terre-Neuve comme la mairie, la morue, pardon. Et,
vous prenez la mairie pour une morue, ça va leur faire plaisir.
La mairie de son arrondissement, évidemment. Et et c'était le régal des Terre-Neuvains. Et en face de chez mes grands-parents, dans le Finistère, il y avait un ancien Terre-Neuvain qui, chaque fois qu'il mettait ça à chauffer dans son four, ça en boucanait tout le quartier, et ma femme provençale, elle doit le supporter aussi. Donc, quand je fais un crochet à Saint-Malo, c'est pour acheter des capelans, parce qu'on n'en trouve qu'ici, à ma connaissance.
Et on peut les trouver où, précisément?
Dans des poissonneries. Moi, j'avais l'habitude d'aller à Saint-Servant. Ça fait un petit moment que j'y suis pas allé, donc je peux pas garantir l'adresse, mais il y avait une poissonnerie aussi, intramuros, où on en trouvait également.
Romain Diop, c'est encore possible, les capelans à Saint-Malo, à votre avis, ou pas, vous qui connaissez bien la ville?
C'est possible.
Bon.
J'avoue ne pas être suffisamment au courant.
Il est assez sceptique. Pas de crêpes au Capelan, en tout cas à Grain-Noir, votre crêperie intramuros.
Peut-être dans l'avenir, on sait jamais.
Peut-être dans l'avenir, on sait jamais. Vous connaissez par cœur la ville, Romain, évidemment. Vous y avez votre crêperie, comme je le disais, avec votre femme Marie Trop. Une petite raison de venir comme ça à Saint-Malo?
Pour l'âme de la ville, Corsaire, hein, tout simplement. Une ville qui se démarque et puis qui est magnifique, sur un front de mer sublime. Il y a quoi d'autre?
Avec un patrimoine quand même extraordinaire et des légendes, des histoires de corsaires, de pirates,
ouais,
de flibustiers.
Qui respirent dans la ville. Donc,
Et la plus belle plage d'Europe.
Ah.
Quand même, non?
Madame à ma gauche, Elvira Masson, est assez couchée de soleil.
Ah, je suis couchée de soleil, levée de soleil, plage à toute heure, pique-nique, tout ce que vous voulez. Mais vous savez que la plage de Saint-Malo, enfin la plage du Sillon, a été élue plus belle plage d'Europe dans un classement il y a quelques mois de TripAdvisor.
Qui est au courant?
C'est vous tous qui avez voté?
Bon. Il y a combien de malouins d'ailleurs dans ce public? Levez la main, les vrais malouins. Ah, ça fait un petit tiers, quand même. Lénate, une raison de jeter l'ancre à Saint-Malo?
Eh bien, d'essayer un petit peu d'aller plus loin et de traverser la Rance.
Bonne idée.
Et d'aller de l'autre côté. Et là, il y a une autre ambiance, d'autres paysages. Et c'est vrai que nous, évidemment, notre cœur est à Saint-Lunaire. Donc, la pointe du décollé, je conseille à tout le monde. Où là, on a une vision... côté est, vous avez Saint-Malo, intramuros, et côté ouest, vous avez le Cap Fréhel. Et quelquefois, on voit le Fort Lalatte quand il y a un vraiment très beau temps, ce qui est très souvent sur notre côte.
Panorama exceptionnel.
Exceptionnel.
C'est une des plus belles vues de Saint-Malo.
Ouais, avec ses hommes en face. Hein, vraiment, oui, on a vraiment un panorama sympa.
Antoine Gerbel sait de quoi il parle, car c'est un enfant du pays, figurez-vous. Je crois même d'ailleurs que votre maman est dans le public, on peut le dire ou pas?
Oui, tout à fait.
Elle s'appelle Yannick. On applaudit maman Gerbel. Et d'où vient vous, votre maman, Antoine?
Ma maman, c'est une, son nom de jeune fille, c'est Leo, c'est Pontivy, je suis désolé, une autre Bretagne. Mais la famille s'est installée à Cherouet, dans la baie du Mont-Saint-Michel. Vous savez, cette baie qu'on dit normande et qui est 98% bretonne.
Ah, ça y est, il entame le duel Bretagne-Normandie, on n'est pas rendu.
Non, et donc, j'ai vraiment grandi, mon enfance, mes vacances autour de la Guimorée, ces magnifiques plages. Et je suis comme Elvira, j'aime beaucoup le Sillon, mais l'hiver, Saint-Malo, c'est l'hiver, c'est des ciels incroyables. Et les grandes marées, quand la tempête s'y met, elle peut être dangereuse, mais c'est ces grandes lames qui viennent frotter sur le sillon. Là, on se croirait dans Game of Thrones quand ils descendent du nord, cognés contre les portes. Mais non, bien à l'abri. Là, voilà, on a une belle vue d'ici.
Ça sent le vécu, Antoine Jabal. Vous n'aviez pas, Lénate, un petit coup de cœur à nous recommander?
Si, un boulanger extra.
Qui est où?
Qui est quartier Saint-Servant. Rue de la Nation.
D'accord.
La boulangerie s'appelle Chez Mamie. Ouais. Et là, je vous ai amené une de ses spécialités qui est la brioche aux algues qu'on a élaborée ensemble.
Et avec c'est, vos algues, que vous ramassez.
Tout à fait. On a réfléchi une recette et puis ben voilà, on a associé nos deux spécialités. Et le petit est né, c'est la petite brioche aux algues. Donc voilà, et maintenant, il n'arrête plus. Elle est super.
Elle a cette petite trame saline tout à fait intéressante.
Parce que le boulanger aussi, il met du cœur dans son œuvre. Et voilà, que ce soit aussi son pain, enfin, tout est extra dans sa petite boulangerie, comme dans le temps.
Rappelez-nous cette adresse, Mamie.
Alors, chez Mamie.
Chez Mamie.
Rue de la Nation à Saint-Servant.
Mamie, en deux mots, j'imagine.
La mamie de toute, voilà, de tout. Oui. La mamie et la.
Comme la mie de pain aussi.
Comme la grand-mère, comme voilà.
C'est ça, très bien. Mamie. Et c'est dans le quartier Saint-Servant.
Saint-Servant, rue de la Nation. Voilà,
merci pour ce.
Je vous invite à y aller.
Merci pour ce coup de cœur, Léna. On parle pêche et cueillette à pied en Bretagne. Des petits animaux qui rampent, mais également des algues. Ça se passe entre le Finistère et la côte d'Emeraude. Et on écoute Dominica. Aujourd'hui n'existe plus. On va déguster à Saint-Malo.
Aujourd'hui n'existe plus. Vois les tunnels qu'on a pris. À quoi ressemble la sortie? Aujourd'hui n'existe plus. Aujourd'hui n'existe plus. Aube et crépuscule confondus. Et le flux semblable au reflux. Aujourd'hui n'existe plus. Dès le début la vie a pris. Et la lumière donnait à plein. C'était brutal et froid aussi. La peau bleuissait dans le bain. Quand c'est parti à toute allure, certains ont réduit la voilure. D'autres ne savaient pas freiner. Et tant d'arbres s'en sont mêlés. Aujourd'hui n'existe plus. Vois les tunnels qu'on a pris. Vois à quoi ressemble la sortie. Aujourd'hui n'existe plus. Aujourd'hui n'existe plus. Aube et crépuscule confondu. Et le flux semblable au reflux. Aujourd'hui n'existe plus. On avait des histoires en nombre. On n'avait qu'à se décider. Pour en prendre une et l'adopter. Et la faire entrer dans le monde. Matins pâles et bariolés. Se côtoyaient perçant la brume. Vacant de quart en quart de lune. Rien pouvait nous rassasier. Aujourd'hui n'existe plus. Vois les tunnels qu'on a pris. Vois à quoi ressemble la sortie. Aujourd'hui n'existe plus. Aujourd'hui n'existe plus. Aube et crépuscule confondu. Et le flux semblable au reflux. Aujourd'hui n'existe plus. Aujourd'hui n'existe plus.
Les grandes marées sont devenues des événements médiatiques. Elles déplacent les foules en deux groupes de personnes. L'un est celui des adorateurs de la marée haute, fascinés par le spectacle majestueux de la mer qui enfle jusqu'à ras-bord. Je m'adresse dans ces pages aux fanatiques de la marée basse, ceux qui se rendent sur l'estran pour en rapporter des denrées comestibles, transformant parfois la pêche à pied, qui était une activité locale, récréative ou de subsistance, en une manière de fête foraine, attirant des populations venu de loin. C'est un extrait de Récits et recettes du Ressac. Faut pas être dyslexique, hein, parce que c'est une belle allitération en R, comme les vagues qui roulent sur la grève. C'est un ouvrage consacré à la pêche à pied aux éditions de l'Épure, et c'est signé Patrick Cadour qui est avec nous ce matin. Un livre formidable, parce qu'en plus, il a la qualité évidemment d'empiler des recettes, mais il raconte aussi de très belles histoires, avec une plume qui n'est pas donnée à tout le monde. Plume primesautière, malicieuse, tout à fait alerte. On a beaucoup aimé votre livre, Patrick Cadour.
Merci.
Est-ce que vous pourriez expliquer à ceux qui n'ont pas du tout le pied marin ce que sont les grandes marées?
Les grandes marées, c'est un phénomène qu'on doit aux astres, à l'attraction de la Lune, qu'on mesure avec des coefficients. Et plus le coefficient est élevé, et plus la mer va descendre loin, plus il y aura un marnage important. Et plus ça descend, et plus on va trouver un terrain de pêche ou de promenade, hein, parce qu'on peut aussi profiter des lieux et du paysage qui est toujours changé, toujours différent. pour une simple balade. Alors, ça, quand il n'y a pas de marée du tout, c'est une marée de mortes eaux. C'est un coefficient de 20, puisque zéro, ça n'existe pas, même en Méditerranée.
Oui.
Et le maximum, c'est 120 qu'on doit atteindre deux ou trois fois par siècle.
C'est ça. Lorsque j'ai appelé les Donats il y a quelques jours pour préparer l'émission, vous n'étiez pas du tout disponible au téléphone. Ah non, désolé, excusez-moi, vous me rappelez plus tard. Ce sont les grandes marées. On est encore en plein dedans ou pas, là?
Là, on a terminé vendredi. Ouais, tout à fait.
Vous vivez également les nattes avec... les grandes marées, Nathalie Hamelin et Nathalie Hamon, puisque votre métier est évidemment lié à ces mouvements de la mer. Vous ramassez au bord de nos littoraux et notamment de la côte d'Émeraude des algues.
Oui, tout à fait. En fait, on est tributaire de ces astres-là et surtout de la descente de la mer. Mm-hmm. Parce qu'en fait, à Saint-Lunaire, c'est deux pointes rocheuses, en fait. Donc, il faut vraiment... faire un petit peu de l'escalade, on va dire, et donc aller jusqu'au bout des pointes, et c'est là où on va trouver nos merveilles. Donc voilà, on est vraiment...
Ça se passe sous les combien de temps, les grandes marées?
Alors ça va être 4 jours à peu près par mois, ça va débuter en mars, le temps que nos petites algues grandissent, et on va terminer ça en novembre, en fait.
Et les grandes marées, dans ces fenêtres grandes ouvertes, c'est là où vous ramassez vos trésors, ça va jusqu'à 200 kilos d'algues, c'est ça à peu près?
Tout à fait, on a à peu près une vingtaine de kilos chacune sur le dos, qu'on doit remonter après comme ça, comme des charpas. Et donc oui, donc c'est des petites quantités pour en faire un métier, enfin voilà, une industrie. C'est pas industriel, on est vraiment artisanal. Donc on les sélectionne en plus au ciseau, coupé au ciseau sur les rochers. Donc on est un peu malade.
Bien sûr.
Mais on respecte aussi notre biomasse et c'est le plaisir de travailler avec la mer et surtout de voir toutes ces merveilles sous nos yeux, quoi.
On ramasse des algues, on pêche à pied. Patrick Cadour, c'est quoi pour vous la pêche à pied? Est-ce que c'est un sport? Est-ce que c'est une activité épicurienne? Est-ce que c'est une hygiène de vie?
C'est un peu tout ça à la fois. C'est aussi l'excitation de la recherche, de la trouvaille. Quand on trouve un homard, on est content, on est fier, on a gagné son mois.
C'est la chasse au trésor.
C'est une chasse au trésor. C'est aussi un but de promenade qui permet de se régaler après, parce que ce sont de très bons produits et parfois insoupçonnés, comme on verra. Et puis il y a une dimension onirique importante, une dimension qui nous ramène peut-être au fond des temps quand nous étions des chasseurs cailleurs et qu'il fallait manger ce qu'on trouvait. Le premier homme qui a mangé un huître, c'est un type courageux, quoi. Mais comme l'escargot d'ailleurs, des escargots, des gastéropodes marins, il y en a des tonnes. Et des très bons.
Absolument. Les Donats, Nathalie Hamelin, Nathalie Hamon, c'est évidemment un métier avant tout, puisque vous en vivez de cette cueillette des algues. Et pour autant, est-ce que c'est pas une façon aussi d'être en osmose avec le milieu naturel? Est-ce que c'est là pour vous aussi une hygiène de vie?
Tout à fait, c'est le but. C'est vraiment de travailler avec la nature, avec la mer et à son rythme. Et donc voilà, le rythme effréné des villes, on l'a connu. Et maintenant, c'est vrai que oui, là, ça nous ressemble vraiment plus. Et pour rien au monde, on changerait de métier, quoi. C'est une passion avant tout, la mer.
Je pense qu'on a une nature, effectivement, de contemplation. Donc, ce qui fait que, voilà, c'est vrai que c'est un métier pour nous qui nous ressource.
C'est ça.
Et la mer, c'est aussi un berceau, donc de vie. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on y va, qu'on a effectivement, voilà, des commandes, des choses un petit peu, voilà, de côté, eh ben, hop, on laisse tout. Et on remonte et on est pleine de bonnes choses. Parce que voilà, il n'y a pas que de l'iode, il y a aussi de bonnes ondes.
Même si on va voir que vous vous répartissez un peu le travail. Il y en a une qui est plutôt penchée vers la cueillette, l'autre davantage vers la cuisine. Mais ça vous arrive de faire la cueillette des algues à deux, évidemment.
Ah oui, toujours. Complètement, toujours. Mais c'est vrai qu'en plus, on n'est qu'à deux, donc à faire les sherpas sur les rochers. Comme c'est assez escarpé, il vaut mieux qu'on soit à deux pour amener une petite quantité dans les sacs.
On va parler de vos algues dans un instant à travers une très jolie leçon de chose, mais revenons à la pêche à pied avec Patrick Cadour, récits et recettes du Ressac. J'aime ce titre, je pense que je vais le prononcer 30 fois dans l'émission. Patrick Cadour aux éditions de l'Épure, et j'aime la façon dont, de façon très poétique, vous classez les animaux, les petites bestioles rampantes, accrochées que vous avez l'habitude de chasser lors de vos grandes pêches à pied. Il y a, écoutez bien, c'est très drôle, les fantassins, les embusqués, les caparaçonnés, là, faut pas être aussi dyslexique, hein. Caparaçonnés, il y a des fautes de français à ne pas commettre. Et les cramponnés.
Ouais.
Les fantassins.
Les fantassins, bon, déjà, on en a cité la plus grande partie, les gastéropodes. Donc, vous allez trouver le bigorneau, les bulots, les ormeaux, etc. La crépidule aussi en fait partie. L'oursin, dont très peu de gens savent qu'il a énormément de pieds.
Il a beaucoup d'aiguilles aussi. Ce sont des aiguilles, d'ailleurs.
Non. Ah. Il a les aiguilles, des pieds et des petites pinces comme des pinces à sucre.
Et il se déplace.
Il se déplace
beaucoup. Incroyable.
Il grimpe même. Alors les embusqués, c'est ceux qu'il faut. Soit il faut les chercher dans le sable, parce que tous les palourdes, les praires, les coques qui sont cachés.
C'est ceux qui sont bien enfouis, on va dire.
On trouve des poissons aussi, des poissons plats comme le carlet ou la pliche, je sais pas comment on l'appelle à Saint-Malo, comme la sole, de plus en plus rare, mais il y en a encore. Ou les lançons, les équis, qui sont des petits poissons qui sont très bons en friture, mais qui font aussi des très bons appâts pour la pêche à la ligne.
C'est ça.
Et j'ai mis le congre là-dedans parce qu'il se balade que la nuit, lui. Donc c'est pour ça qu'il est caché.
La famille des caparaçonnés. Alors ceux qui ont une carapace.
Donc ce sont les crustacés au sens large. Là, on part de la crevette jusqu'au homard, en passant par les différentes formes de crabes.
Ce sont les cuirassés, en quelque sorte.
Oui, hein. C'est ça. Voilà, il y a un petit côté militaire dans cette présentation, mais.
Et les cramponnés.
Les cramponnés, c'est ceux qui sont les plus faciles à pêcher parce qu'ils bougent jamais. Donc ils sont attachés par des filaments ou tout autre moyen à la pierre. Et là-dedans, vous allez trouver le pousse-pied, par exemple. Vous allez trouver les pétoncles. Vous allez trouver
l'huître, la moule
ou la moule qui sont accrochés par leur byssus.
Absolument.
Et ceux-là, ils courent pas vite, quoi.
C'est ça. Alors on va commencer par un drôle de mollusque qui se cache sous une coquille en forme de chapeau chinois. Tous les enfants essaye en général de le décrocher sur les rochers, et pas d'ailleurs que sur les rochers de Bretagne. Hein. C'est vraiment une espèce qu'on peut trouver partout, y compris pour le méditerranéen que je suis un peu. Ça me rappelle des souvenirs en Corse où on l'appelait pas du tout d'ailleurs bernique, mais arapède. La bernique, et non le bernique.
Oui.
La bernique.
La bernique, et en breton le brenique.
Et en breton, alors ça vient d'où ?
Ça vient de... Il y a plusieurs origines, mais celle qui revient le plus souvent, c'est la forme du casque du dieu Brennus, en fait, qui était en cône comme ça.
Intéressant.
Voilà, donc après tout le monde a sa version, mais ça, elle me plaît bien.
Et ça, c'est un petit animal qui est tout à fait mangeable.
Alors, c'est un animal qui est très bon, qui est un peu coriace si on ne sait pas le préparer, si on ne sait pas où l'attraper. Mm-hmm. Il faut aller chercher sous le goémon noir, dans les endroits où il a une bonne diversité d'algues à brouter, parce que c'est un brouteur. Les algues le protègent également du battement des vagues, ce qui fait que il est un peu moins coriace que ceux que vous allez prendre en front de mer, par exemple ici.
C'est ça. Il circule dans les travées de la rotonde Surcouf une terrine de bernique, figurez-vous. Est-ce que quelqu'un l'a goûté et pourrait faire un petit commentaire de dégustation au micro dont on va déguster ?
Je vais citer l'artisan parce que j'ai pas eu le temps d'aller à la pêche. C'est une terrine de mon ami Olivier Olibert à Bourg-Blanc.
Oui. Très bien. Alors, non, personne. Ah bah... Non ? Bon. Alors, Elvira, qu'est-ce que vous en pensez ?
Je trouve ça absolument superbe. La texture est assez ferme et dense. C'est très assaisonné, très relevé, iodé. Ça a presque une texture un petit peu d'andouillette. D'andouille, pardon, d'andouillette, n'importe quoi. D'andouille.
Absolument, avec la
un
petite note
ferme,
saline en plus.
Un peu saline, un peu résistant sous la dent, avec un peu d'élasticité. Moi, j'adore.
Très intéressant, hein, ce petit animal. Que l'on peut faire. Il y a également sur le site de l'émission une recette, attention, de bernique à l'oriental en sauce au cumin. Mais on va passer tout de suite à un autre animal, parce que la moule n'est pas que le fruit de la mytiliculture. Autrement dit, ce n'est pas qu'un animal d'élevage, mais ça peut être aussi un animal sauvage. Et vous, il vous arrive très souvent de décrocher de leur rocher des moules sauvages.
Oui, ça c'est une pêche vraiment facile. Il suffit de connaître en gisement... Alors là où je pêche le pouce de moule, moi, c'est dans les Côtes d'Armor, du côté de Trébeurdin, etc. Hein, là, il y a vraiment des champs. Ou alors, du côté du Val-André, il y a de très, très, très beaux gisements. Et si on va un peu en mer, sur les îlots, on va trouver des moules très grosses, presque de la taille d'une moule d'Espagne, et qui sont...
Oh là là. Et vous avez une recette. Attention, ouvrez bien vos écoutilles, cher public. Recette garantie sur facture, j'ai envie de dire, qui fonctionne très bien. On oublie la traditionnelle marinière, la moule à la crème normande. D'ailleurs, les Normands n'existent pas aujourd'hui, hein, c'est très clair. On était à Coutances il y a 15 jours, on va se faire des amis. C'est une recette que vous avez inventée, et à chaque fois, vos amis font « Waouh, c'est bon !»
Ouais, ils font ça parce que bah, ils sont assez indulgents finalement et j'ai mauvais caractère. Mais en fait, l'idée générale, c'est de faire des recettes avec très peu d'ingrédients. Parce que une fois qu'on a pêché, une fois qu'on a nettoyé le matériel, éventuellement le bonhomme, ben on va pas passer 2 heures de cuisine à faire des mises en place. Et là, c'est une recette où vous avez 3 ingrédients, des moules, du romarin frais de préférence et du jus de citron. Vous faites ouvrir très légèrement vos moules dans un peu d'huile d'olive.
Dans un faitout, un feu moyen.
Un feu cocotte, mm-hmm. assez vif pour que ça s'ouvre vite.
D'accord.
Vous rajoutez un peu de votre romarin haché, le jus de citron, et une fois que les moules sont ouvertes, c'est terminé.
Et c'est délicieux.
On peut poivrer.
Mais l'huile d'olive, ça pourrait être du beurre aussi, j'imagine.
Oui, mais
il y a une petite note méditerranéenne.
Il y a le rappel du romarin et du citron.
Absolument, romarin, citron.
On n'est pas vraiment en Bretagne.
L'huile d'olive.
Ouais. J'aime beaucoup le beurre, mais je ne suis pas intégriste.
Mais qu'avec des moules bretonnes, évidemment, ça nous plaît. Et vous voulez savoir avec quoi on pourrait boire des moules ? Réponse avec Antoine Gerbel.
On va déguster sur France Inter.
Antoine qui nous parle vin malgré ses origines bretonnes.
Oui, mais non, mais justement, c'est inspirant. Aux portes orientales de Saint-Malo, vous avez bien évidemment Cancale. Derrière Cancale, vous avez la baie du Mont-Saint-Michel, où on a la seule appellation d'origine protégée de la mer, puisque c'est la moule des bouchots de Mont-Saint-Michel. J'ai été sevré à ces moules de bouchots, et je vais pas me lancer dans des recettes. Vous en avez tous des recettes. On a tous nos petits coups de main pour les moules. Dans le Nord, ils mettent un peu de bière, un peu de vin par-ci. Des fois, on va mettre même des fois un peu de liqueur. Enfin, tout le monde a une petite recette. On met des légumes, il y a plein de choses qui se dégagent, mais je dirais il y a un dénominateur commun, c'est ce goût de curry qui est là sur cette chair bien généreuse qui va arriver bientôt. Hein. On est un peu en avance en parlant puisque c'est début juillet que tout ça débute. Alors pour commencer, je suis désolé, les 3 verres sont sur nos tables, pas dans la salle.
Et bien rempli.
Et bien rempli.
Désolé. Hein.
On va commencer
en faisant
presque couleur locale, c'est bien évidemment en choisissant un vin de Loire. La Loire et la Bretagne, c'est une longue histoire. Tout le vignoble s'est développé à partir de la Bretagne principalement. On en boit dans tous les cafés depuis très longtemps. Et les blancs secs ont à la fois tenu commercialement grâce à la Bretagne et ne se sont malheureusement pas toujours bien développés parce que les Bretons ont acheté souvent des petits vins blancs, n'étaient pas très regardants. Aujourd'hui, il y a une grande appellation qui s'appelle le Muscadet dont vous entendez souvent parler, qui est en pleine renaissance, donc il faut vraiment aller faire un tour du côté de Nantes pour retrouver le meilleur du Muscadet. Donc je vous ai mis dans le premier verre un musc K, avec la lettre au milieu, D, de Michel Bédoué. Je vous ai déjà parlé de Michel Bédoué, on avait déjà chroniqué un Cogito, un très joli vin. Et là, Michel Bédoué a fait un primeur, c'est un 2017, il a mis en bouteille très tôt, sans soufre. Et je trouve ça très intéressant sur les huîtres, vraiment les moules les plus simples. On a vraiment le côté vif, tonique, éclatant du melon de Bourgogne, ce cépage du Muscadet.
Donc là, c'est plutôt pour les moules au naturel.
Les moules au naturel.
Dans leur plus simple appareil.
Voilà, comme nous disait notre invité, on est fatigué, on rentre de la pêche à pied, on débouche la bouteille.
Mais vous savez
que,
par parenthèse, il y a un truc exceptionnel à faire, c'est prendre un faitout, mettre ces moules dedans à condition qu'elles aient été un peu ébarbées, nettoyées, aucune matière grasse, rien d'autre, juste un coup de chaud avec le couvercle, elles s'ouvrent, c'est des huîtres naturelles fabuleuses.
Ou sur une plancha, c'est pareil.
Ou sur une plancha, absolument, ouais, sans aucune condimentation.
Exactement.
Tout à fait. Alors, ce muscadet, je l'ai trouvé à Saint-Malo, vous avez des bons cavistes à Saint-Malo, notamment un très bon caviste s'appelle le Jus d'Octobre,
oui,
qui a 2 belles boutiques. J'étais du côté du Grand Aquarium, il est très sympathique, le choix est parfait, on trouve ce muscadet, 6,90€, voilà, on se ruine pas, c'est direct. Le second vin que je vous ai mis au milieu, alors là, on va dire qu'on voyage, mais c'est mes voyages de la semaine. Je voyage beaucoup dans le vignoble. J'étais en Bourgogne cette semaine et j'étais voir 2 vignerons qui sont extraordinaires. Ce sont les frères Brett. On les appelle les Brett Brothers. C'est une espèce de jeu de mots, vous savez, parce que Brett est une maladie du vin. Ils en jouent, c'est leur vrai patronyme. Et les Brett Brothers, ils sont à Pouilly. Vous connaissez sûrement Pouilly-Fuissé, mais ils sont dans le petit Pouilly à côté, c'est le Pouilly Vinzel. Et ils donnent des ailes au Pouilly Vinzel depuis très longtemps, ces 2 frères. Et là, ils viennent d'accéder à une parcelle de Saint-Véran. Alors, on est toujours dans le sud mâconnais, dans ce petit coin. C'est du pur chardonnay. C'est 2016. J'étais enflammé par ce verre. Vous l'avez
le verre du milieu.
Dans le verre à c'est pied, ça. Le verre du milieu. Alors là, c'est vraiment une proposition de moule un petit peu plus culinaire. On peut se lancer sur des dots de crème, on peut y aller aussi. Et puis les épices aussi. Moi, j'adore mes pincées d'épices. Clin d'œil aux amis Rollinger d'à côté. Vraiment, quelques pincées d'épices pour aller avec les
aromatiquement, c'est large. Hein.
C'est large, c'est généreux. C'est un 2016, il va monter en puissance. C'est un vin qui va dans 15 ans. Et pour moi, un nouveau grand cru, vraiment Saint-Véran, qui est en train de se développer. Et enfin, pour finir, alors là, c'est le clin d'œil absolu. Ce sont des Malouins, de jeunes Malouins, un couple d'un certain âge, mais jeunes Malouins installés depuis 2 ans. Et vous savez ce qu'ils font ? Ils font du vin en Serbie.
Incroyable. L'histoire est
fantastique. Ce sont deux bourguignons. Elle est d'une famille de vignerons de la côte de Beaune. Lui, c'est un spécialiste des sols. Ils ont beaucoup œuvré pour remettre en avant la biologie, la biodynamie dans les sols pendant des années en Bourgogne. Et puis, ils en ont un peu marre. Ils sont partis comme ça sur la route dans les pays de l'Est. Le nouveau far east du vignoble. Il y a de très vieux vignobles en Roumanie, en Bulgarie et en Serbie. Et vraiment, un jour, ils sont tombés en extase devant un petit village. Ils sont même tombés en panne au bout d'une route, et ils ont remonté la route, ils sont tombés sur un village extraordinaire, ils se sont dit mais c'est une petite Bourgogne cachée, des caves partout dans ce village. Je vous donnerai tout à l'heure l'adresse de leur site internet, ils ont fait un film merveilleux, vous allez comprendre immédiatement. Donc des caves, des vieilles vignes. Des vignes, mais qu'on connaît, c'est-à-dire du chardonnay, du riesling, et ils se sont mis à faire du vin nature parce qu'ils ont envie de développer cette philosophie du vin. Alors là, je vous ai mis Tajna 2015, c'est leur propre vigne, ils ont 2 hectares, et ils achètent des raisins à peu près tous les vignerons de ce village, et qui vinifient, passent à peu près moitié du temps entre Saint-Malo, donc, et la Serbie.
Oh là là, je sais pas si c'est le psychologique, mais il y a une finale saline.
Très, très saline. Ouh. C'est du calcaire, c'est salin. J'ai oublié de les citer, ils s'appellent les Bongiro, Estelle et Cyril Bongiro. Voilà, ils sont aussi vendus par quelques cavistes à Saint-Malo, parce que comme ils sont là, ils commencent par rayonner dans leur région. Et puis ce côté calcaire.
Il aime Patrick Cadour.
Pour moi, c'est la coquille d'huître, quoi.
Exactement. Dans le jargon du vin, on utilise beaucoup minéral, on le met un peu à toutes les sauces. Mais là, voilà, typiquement un vin que vous goûtez et ça vous vient à l'esprit. Vous avez votre langue qui traîne sur une coquille, effectivement, d'huître ou de moule.
Voilà. Parce que les Malouins sont encore voyageurs, quand même, hein.
Voilà. C'était étonnant vin, étonnant voyageur, un vin serbe goûté à Saint-Malo, fait par des Malouins.
Et le budget? Pour casser l'ambiance?
Non, c'est 22 euros chez le caviste. Ouais. C'est un très très beau voyage, vraiment. C'est un 2015, hein, donc c'est un vin qui a une belle maturité, qui va évoluer. Notre Saint-Véran des Brett Brothers, vraiment une cuvée rare, on est à 25 euros. Et le Muscadet, 6,90 euros.
Merci beaucoup Antoine Gerbel. Romain Diop, merci, on peut l'applaudir. Notre découvreur de belles sensations fortes dans le verre. Romain Diop, cidre nature, on va le voir, mais également vin nature à la carte de Grain Noir, votre crêperie de Saint-Malo Intramuros. Vous connaissez ces références ou pas ?
Oui, j'ai travaillé précédemment avec les Brett Brothers à l'époque. Et puis, on travaille aussi avec les Muscadets chez Bédoué, notamment le primeur qu'on a fait un moment, puis Cogito,
oui,
que vous avez évoqué. Et on fait aussi leur troisième cuvée qui s'appelle les Hauts de Grand Primos.
Ah, les Hauts de Grand Primos. Voilà.
Ouais. Un petit peu plus aromatique, plus fruité, je dirais.
On viendra goûter ça chez vous.
Très bonne qualité, ouais.
Dans un instant, on parle de votre complète de compète, Romain Diop, chez Grain Noir, et leçon de choses autour des algues avec les nattes.
On a hâte.
La moutarde, du pain, du beurre, des petits oignons, des confitures et des œufs durs, des cornichons, des cornets bif et des biscottes, des macarons, un tire-bouchon, des petits beurres et de la bière, des cornichons. On n'avait rien oublié, c'est maman qui a tout fait, elle avait travaillé pour nous sans s'arrêter, pour préparer. Le poulet pois, la mayonnaise, le chocolat, les champignons, les ombres boîtes et les tomates, les cornichons. We'll be right back. le fromage et les boîtes, les confitures et les cornichons, la moutarde et le beurre, la mayonnaise et les cornichons, le poulet, les biscottes, les œufs durs et puis les cornichons.
On va déguster Dresse le couvert à Saint-Malo. Merci à tous. Merci, cher public, d'être venus si nombreux dans la rotonde Surcouf avec une vue splendide sur la mer. Nous sommes à Étonnant Voyageurs, 29e édition, et on peut dire qu'on va voyager notamment avec les nattes, Nathalie Hamon et Nathalie Hamelin. Ramasseuses, cueilleuses, comment faut-il dire ?
On préfère cueilleuse.
Cueilleuse, ouais. Très bien, ça me plaît. La cueillette.
C'est une cueillette.
C'est une cueillette, absolument.
Au ciseau, au couteau, enfin voilà.
Voilà, pour pas abîmer la ressource.
Pour pas abîmer la ressource, et puis bah, surtout sélectionner aussi nos algues. Hein. On est un petit peu obsédé par la qualité.
Bien sûr.
C'est notre premier motif de faire les choses, c'est de bien les faire. Et donc, voilà, et puis surtout, oui, respecter la biomasse, c'est très important.
On va voir d'ailleurs que la cueillette se passe de mars à novembre. Mmh. Petite leçon de choses autour des algues, juste sans être alarmant, et en même temps il faut être tout à fait réaliste. Vous m'expliquiez en préparant cette émission que vous êtes assez préoccupé par le changement climatique en parlant de respect de la biomasse.
Ouais, tout à fait, c'est vrai que voilà, ça fait 5 ans qu'on est sur les rochers, et c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on a observé un retard de la pousse des algues. Ouais. Et cette année encore plus, c'est vrai que l'année dernière le wakame sauvage, on arrivait encore à en trouver en février, ça arrivait. Mmh. Là, on a été obligé d'attendre. C'était notre première marée là en mai.
Comment expliquez-vous ce retard dans l'apparition des algues sur le littoral ?
Alors, je pense qu'il y a eu un manque cruel de soleil, de lumière. Donc, la photosynthèse n'est pas forcément faite. On a eu aussi beaucoup de pluie. Donc, je pense aussi qu'au niveau du sel marin, il y a eu quand même. Donc voilà. Et je pense aussi que les algues, elles s'adaptent, et peut-être elles sont parties un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on les trouve. Peut-être plus avec des grandes marées, des standis ou des... Donc,
alors, voilà. Vos observations, elles sont évidemment empiriques, mais est-ce qu'on peut rattacher ça, ces phénomènes que vous observez, à un dérèglement climatique ?
Tout à fait, tout à fait. Je pense que même on peut voir sur les végétaux terrestres qu'il y a quand même des choses assez étranges cette année, c'est-à-dire les feuilles des arbres ne sont pas venues si tôt que ça. Donc voilà, je pense que, comme nous, on voit que les choses changent et... faut pas se voiler la face, il se passe des choses dans la nature.
Bien sûr, et vous avez tout à fait raison de tirer la sonnette d'alarme. Vous êtes arrivé avec le fruit de votre cueillette, 3 barquettes, 3 couleurs différentes, 3 variétés d'algues qu'on va décliner comme ça, y compris pour ceux qui sont derrière leur poste et qui n'ont pas l'image. Ouais, on commence par la laitue de mer. C'est à peu près la première algue qu'on voit quand on se promène sur la plage.
Oui, son vert éclatant, surtout s'il y a un petit rayon de soleil, on ne voit qu'elle. Donc oui, c'est un peu, on l'appelle la laitue de mer parce qu'en feuilles, elle ressemble à la laitue terrestre.
On a vraiment affaire à une laitue, oui, évidemment, avec ses feuilles un peu froissées, d'un vert assez vif.
Oui, tout à fait, très vif. Et donc voilà, c'est une source de calcium assez importante.
Oui, car évidemment, source absolument spectaculaire, n'est-ce pas, Nathalie Hamon ? En termes de nutrition,
oui,
les algues, c'est un bienfait tout à fait intéressant pour notre santé.
Les Japonais ont pour ça donc une appellation qui s'appelle alicament. Donc voilà, on est sur un aliment médicament.
Pas de vitamines, sels minéraux, protéines.
C'est l'antioxydant en barre, c'est anticholestérol, c'est beaucoup d'oligo-éléments aussi. Et c'est vrai que c'est un petit bien très sympa dans l'assiette, on dirait.
Et Elvira s'est lancée dans un broutage en direct. Alors, c'est à votre goût ou pas ?
C'est parfaitement à mon goût. Côté texture, ça résiste un peu sous la dent. Il faut mâcher. Ça se mâche.
Nathalie Hamon, comment vous les transformez ? Car le principe, évidemment, c'est de transformer ces algues, de les faire sécher, de les réduire en paillettes.
Oui.
Et ensuite de les cuisiner ?
Tout à fait. Donc c'est vrai qu'il faut savoir qu'à la base, elles ont effectivement des textures différentes. On prend la laitue, c'est vrai que c'est un petit peu fin. Et pour autant, c'est vert en bouche. L'adulte, c'est croquant, c'est beaucoup plus doux et iodé. Et le wakame, c'est un peu plus typé, c'est de l'épice, c'est du voyage. Et c'est ce qui fait qu'on est souvent amené à cuisiner nos algues avec justement du gingembre, du curry, des choses comme ça.
Très bien. D'ailleurs, il y a une petite verrine qui circule dans le public de Saint-Malo. Une petite réaction ? Bonjour madame.
Oui, bonjour.
Vous vous prénommez comment ?
Marie-Christine.
Bonjour.
Bonjour. Alors, j'ai trouvé ça exquis. Ça donne envie de cuisiner, en effet. Mais ma question, c'est où est-ce qu'on peut trouver les produits, tout simplement ?
Eh bien, c'est très intéressant. Alors, d'abord, elle a goûté quoi, madame ?
Alors là, elle a goûté le tartare tradition. Donc, c'est un mélange de dulce, laitue, nos riz, avant tout.
Très bien.
Aussi un petit peu d'oignon, d'huile et de vinaigre. Donc, c'est vrai qu'on propose aussi un peu comme un cornichon.
qu'on évoque à l'instant dans la chanson. Et donc là, il accompagne la langouille. Et c'est vrai que pour accompagner un pâté campagnard de qualité, c'est pareil, c'est très sympa.
Vous avez parlé de langouille.
C'est pas de la langouille qu'on a dans le...
Ah, de la langouille. Ben, il va nous en parler dans un instant, Romain Diop, de cette fameuse langouille. D'ailleurs, Romain, un petit mot sur cette langouille que vous servez également sur vos galettes de sarrasin à grains noirs. La langouille, c'est vous qui êtes un peu l'ambassadeur de ce produit aussi à Saint-Malo.
Je m'y attendais pas. Langouille, un produit de très bonne qualité de chez Cochon des Prés, notre artisan charcutier. Un produit maigre, muscle plein, en salaison, fumoir.
Il y a un jeu de mots dans cette histoire. Hein. Il s'agit d'une langue qui est un peu traitée comme une andouille.
Un petit peu, en tout cas dans le fumage.
D'où la contraction langouille.
Ouais, exactement. Et donc il y a le côté un petit peu plus délicat quand même que l'andouille, parce que c'est au départ du système de digestion du cochon, non pas à l'arrivée. Quoi.
C'est ça. C'est un goût très puissant, c'est très... comme c'est joliment dit.
Comme c'est joliment dit, absolument. Ouais. Citons juste, et on va passer à la galette de Romain Diop, justement, avec entre autres cette langouille dessus. Il y avait la laitue de mer, on l'a compris, une autre... Deux autres rapidement, les algues que vous nous avez apportées, Nathalie.
Donc là, vous avez ce qu'on appelle la dulce, en Finistère, on la prononce souvent comme ça, qui est l'algue rouge.
Vous connaissez sa couleur rouge.
Voilà, tout à fait, rouge vin. Et qui est souvent à la même hauteur au niveau sur l'estran, avec la laitue de mer. Elles sont souvent pas très loin l'une de l'autre.
Il y a également du wakame.
Et le wakame, donc un petit représentant, c'est un nourrisson.
Oui.
Parce qu'en fait, l'algue wakame peut faire dans les 2 mètres de longueur.
Oui.
Et c'est une belle bête.
Vous nous le dépliez, montrez-le nous. Ah oui, il faut avoir le bras long. Ouf. Ah oui, d'accord. Ah, non, mais c'est quand même un
là,
bébé.
Là, c'est une petite bête. Hein.
C'est une écharpe.
C'est un bébé.
En général, ouais, 32 mètres. Voilà. Ouais,
ah oui.
Tout petit.
Ça ressemble à une espèce de grande lame avec des rubans tout autour.
C'est une fougère. C'est un peu une fougère de mer. Ouais,
c'est une fougère de mer.
Ouais.
Bah, la passer, la sentir, la manger aussi parce qu'elle a été cueillie il n'y a pas très longtemps. Hein. Elle était encore très bonne.
Elvira va s'en occuper. Elle a la mâchoire solide.
Voilà. Hein.
Je m'en charge.
Non, c'est un petit wakame sauvage qui vous attend, rapporté spécialement pour vous par les nattes. On a compris que vous étiez ramasseuse ou plutôt cueilleuse d'algues à travers une enseigne dont vous rappelez le nom, hein, Algemroad,
ouais, tout
à fait. Et la dame qui vous demandait où on pouvait trouver vos produits, c'est vrai qu'on lui a pas répondu.
Ouais, bah écoutez, on est distribué par quelques épiceries fines, donc vous en avez aussi dans le secteur. Donc je sais pas où est-ce que vous êtes.
Saint-Malo, vous êtes où,
madame? Vous avez la Malouine.
Saint-Malo.
Vous avez la boutique des Thermes Marins de Saint-Malo. Donc vous allez sur notre site, vous allez voir, hein, nos produits sont distribués, vous allez voir toute la liste.
Et pas qu'en Bretagne d'ailleurs. Hein.
Non. Nos petites algues ont voyagé un peu, donc c'est ici jusqu'à la capitale même.
Algemroad, elles sont à Saint-Lunaire et ça existe depuis 2013. Une belle entreprise avec des femmes qui se retroussent les manches et qui font un excellent boulot. Merci. Lequel boulot se retrouve dans la bouche d'Elvira Masson.
Évidemment, comme il se doit. Je suis en train de goûter votre tartare tradition sur une tranche de langouille. C'est une merveille.
Voilà, on y est.
Mais je suis séduite.
Mais également ce tartare, on l'a goûté hier, il faut trahir un secret. Nous sommes allés en équipe s'attabler à Grain Noir, cette belle crêperie, avec d'ailleurs l'équipe de Vincent Josse. C'est le grand atelier que vous aurez le plaisir de retrouver tout à l'heure à 15h, ici même en direct à la rotonde Surcouf. On était tous ensemble, 13 d'ailleurs, hein, on occupait la table d'hôte de Grain Noir. D'ailleurs, on a découvert, on peut le dire. Allez, petit côté fiero de notre part, il était une fois avec Elvira.
Eh ben oui, c'était il y a un an à peu près, je pense. On était dans les mêmes eaux.
Mmh.
On s'apprêtait à se rendre à Étonnant Voyageur. Et au détour d'une rue, on tombe sur une vitrine sur laquelle on lit farine bio bretonne, charcuterie fermière, cidre nature.
Voilà.
Une crêperie. On se dit, a priori, ça sent plutôt pas mal. Est-ce qu'on n'irait pas s'attabler? Et c'est ce qu'on a fait, et je crois qu'on a vraiment bien fait.
On a bien fait. Vous avez ouvert quand, Romain Diop, avec Marie Trop, votre compagne?
On a ouvert en décembre 2016.
Décembre 2016, ouais. Il y a très peu de temps, 28 couverts et une galette exceptionnelle. Pourquoi ? Parce qu'elle est vertueuse. Et vous vous êtes attaché à sourcer chacune des matières premières qui la composent. On commence par la farine de sarrasin.
Oui, farine assez spéciale. Enfin, c'est un grain qui s'appelle le petit prussien, qui est un grain assez délicat par rapport à d'autres sarrasins, comme la harpe noire notamment. Donc assez délicat et plus fin en bouche, donc qui demande plus de travail de maturation,
de fermentation. Avec des reflets un peu dorés.
Doré argenté, ouais.
Plutôt. Et ça nous vient du moulin de Berthaud.
Alors, moulin de Berthaud, Jean-Pierre Leroux, à Bain-de-Bretagne, et travaille en agriculture biologique dans son moulin.
On est en Ille-et-Vilaine, pas très loin d'ici.
En Ille-et-Vilaine, au sud de Rennes, et moulin qu'il a réhabilité, lui, avec une association. Moulin du XVIIe siècle, avant, avec un capot orientable, assez incroyable d'ailleurs. Si vous voulez le visiter, il fait des visites. Donc n'hésitez pas.
Galette assez extraordinaire, qui a la particularité d'être à la fois, de cocher toutes les bonnes cases en réalité, d'être à la fois moelleuse à cœur, donc il y a une texture tout à fait réconfortante en bouche, les bords sont légèrement croustillants, certains bretons diraient crase, c'est ça hein?
Crasse comme grillé, ouais, effectivement.
Merci, ouais. Crasse comme grillé, absolument.
Ouais.
Et du coup, cette galette, elle est vraiment super. Il y a toutes les textures, il y a une cuisson particulière, une pâte tout à fait remarquable. Et en plus, elle est bien garnie. On décline rapidement les produits qu'il y a dans cette galette. Il y a quand même un super jambon, et ça, on peut en dire un mot, puisqu'il est assez nouveau.
Ouais, tout à fait, ouais. Donc, un mot sur le jambon, c'est vrai que... depuis pas mal d'années, le jambon en Bretagne a connu pas mal de travers avec les nitrites, les élevages intensifs de porcs. On travaille aujourd'hui avec Cochon des Prés qui lance un jambon sans sel nitrité et issu de cochons du Grand Ouest, donc local, travaillé en bio avec une éthique d'élevage sur le soin animal aussi. Donc ça remplit aussi effectivement toutes les cases, comme vous le disiez, pour relancer un petit peu la machine sur un bon chemin en termes de consommation.
On sait que le sel nitrité, ça permet de garder une couleur rose. Alors celui-là, il est un peu plus gris que rose, parce que le sel nitrité, même s'il a quand même une belle couleur rose,
oui.
C'est vrai que le sel nitrité, on fait pas de dessin, on sait qu'il est sujet à polémique, suspecté d'être cancérogène notamment. Donc là, on a la solution avec un jambon fermier qui vient de Bretagne, sans sel nitrité. Là aussi, il coche toutes les bonnes cases. Dans une complète, il y a évidemment un œuf. Et là, vous avez aussi un bel œuf.
Alors on prend des œufs de gros calibre, bio, avec des jaunes qui partent du jaune clair au orange foncé, selon la saison et selon l'alimentation des poules.
Bien gros et bien coulant.
Et c'est assez agréable. Ouais.
L'emmental, c'est évidemment une composante de la complète, même si l'emmental n'est pas tout à fait breton pour le coup, mais il a quand même c'est une vrai. Origine bretonne.
Oui, parce que notre fournisseur et affineur, Hugues Pouilloux, nous fournit donc cette emmental au lait cru de Haute-Savoie qu'on achète en quart de meule de 25 kilos. On les taille en pointe, on les râpe. Et puis, dans la galette, ça change quand même beaucoup de choses.
C'est ouais. ça. La langouille, on en a parlé. Tous les produits. Il fait un travail formidable. Franchement, Romain Diop. On va...
Et la saucisse de ma complète hier était fabuleuse.
Votre saucisse.
Très poivrée, très relevée.
Alors la saucisse, c'est assez... plébiscité par nos clients.
Complète saucisse, ouais. Merveilleuse.
On finira l'émission Merci. En débouchant une très belle surprise que vous nous avez apportée. Mmh. Romain Diop, c'est là. On peut raisonnablement penser que c'est pas du vin, puisque ça s'appelle.
Si, c'est du vin de pomme.
Oui, bravo, exactement. Et quel vin de pomme ? C'est un coup de cœur dont on parle dans un instant, juste après le coup de cœur littéraire d'Elvira Masson.
On va déguster.
Elvira.
Je vous parle d'un coup de cœur absolu. C'est un livre de Michel Kahn qui est présent à Étonnant Voyageur. Le livre s'appelle « Loin de Sils Maria ». Il est édité au Passage. C'est vraiment ici que je me sens le mieux au monde. C'est le plus ravissant coin de terre qui soit, écrivait Nietzsche à propos de Sils Maria. Sils Maria, donc, si vous avez lu le philosophe allemand, qui lui a même consacré un poème, et si vous êtes sensible au romantisme allemand, vous savez que c'est cette merveille de village perché dans les montagnes suisses, qui, à l'époque dont nous parlons, n'était pas encore suisse. Cette république des grisons, dont la romancière Michel Kahn nous fait découvrir la splendeur, mais aussi la dureté. Parce qu'au XVIIIe siècle, où se situe son histoire, la région des 100 lacs et des 300 glaciers est extrêmement pauvre, et le tourisme très élégant des siècles à venir n'existe pas encore. Alors ce livre, c'est le destin complètement extraordinaire de Johann Josti, un enfant du pays, petit berger malingre, qui décide de fuir des conditions de travail qu'on imagine très difficiles, qu'on sait très difficiles, en rêvant une vie moins âpre. C'est une histoire vraie. Il s'enfuit, pieds nus, brave la faim et le froid, passe des frontières dans tous les sens au péril de sa vie. C'est d'ailleurs absolument palpitant de suivre cette aventure. On le lit comme un roman d'aventure. Pour finir par arriver à son but. Son but, c'est Magdebourg, dans le royaume de Prusse, où il se fait embaucher par un cousin dans la confiserie que tient celui-ci, à travailler dans une cave pendant 5 ans,
18 heures par jour, donc en termes de conditions de vie moins âpres, ça se pose là. Ça lui va, il est heureux parce que c'est décidé, il sera Zucker Baker.
Ah, mais encore ?
À savoir confiseur.
Ah bah voilà, voilà. Il était évidemment
et oui,
question de
évidemment,
choses qui se
mangent. Évidemment.
Et sucré.
Et sucré comme et oui, par hasard.
C'est pas pour déplaire à Elvira.
Mais non, Masson. Évidemment. Et l'auteur nous fait plonger avec Johan dans la confection des différents caramels, des massepains, des sucres d'orge et dragées. Johan se passionne pour son métier, il a un don dont il fait une quête de perfection qui le pousse à quitter son cousin et à ouvrir avec toutes ses économies en 1796 la Zucker Bäckerei Johann Josti à Berlin. Le succès est phénoménal, il fournit la cour de Prusse, il rencontre Napoléon, il s'enrichit, il investit dans d'autres affaires, il fonde le café Josti qui existe encore à ce jour à Berlin, à un autre endroit, premier empire de la pâtisserie. Il n'emploiera jamais que des apprentis malingres venus, peut-être pas pieds nus, mais sans le sou, de sa région de naissance. Ces grisons, toujours si pauvres, ces grisons dont vient une main-d'œuvre du sucre émulée par Johann Josti. On dit qu'il y a à cette époque-là 4000 Zucker Baker venus des grisons qui ont filé du sucre dans l'Europe entière, de
incroyable.
Hambourg à Istanbul.
Et ça, c'est
en passant
l'histoire,
par
ouais, c'est
bien
l'histoire.
Sûr, à Paris, on a dénombré plus de 600 confiseurs grisonnais. Fortune faite. Johann Josti est rentré au pays en fils prodigue et a contribué largement à donner du travail et à assurer la tranquillité et des meilleures conditions de vie aux habitants de sa région. J'ai adoré cette histoire.
Loin de Sils Maria, ouais. Michel Kahn, Le Passage, elle est présente au Festival Étonnant Voyageurs, un roman que vous recommande chaleureusement, Elvira Masson. Un dernier petit coup
un
de cœur, Elvira,
coup de cœur.
On a peu de temps.
Alors lui n'est pas au festival, mais je voulais vraiment vous en parler. Il s'agit de La Cantine de Minuit de Yaro Abe, un manga culinaire japonais dont le troisième tome vient de paraître au Lézard Noir. C'est pas un voyage, c'est un voyage immobile, une unité de lieu, le quartier de Shinjuku à Tokyo, une gargote qui n'a pas de nom, un patron qui n'a pas de nom non plus. Toute la nuit, de minuit à 7h du matin, se mêle dans ce minuscule boui-boui, un mélange complètement hétéroclite, flics, voyous, stripteaseuses, yakuza, boxeurs, artistes, qui viennent goûter des ramen, de la soupe miso au porc, des curry udon, du chinchard grillé. Et à la recette de chinchard grillé, j'ajouterais bien un petit tartare d'algues des nattes.
Ah, très bien, puisque c'est le point commun entre la Bretagne et le Japon, évidemment, la passion pour les algues. C'est un manga dont vous nous rappelez les références.
La Cantine de Minuit, tome 3, lisez les deux premiers avant ou pas, d'ailleurs, comme vous voulez. Le Lézard Noir de Yaro Abe.
Merci beaucoup. Romain Diop, vous nous l'aviez promis. Votre coup de cœur pour une ferme sidricole qui fait un travail formidable. On en a ouvert quelques bouteilles chez vous hier à Grain Noir.
Oui, on parle de la cidrerie des bouteilles à la mer.
Oui.
Avec un cidre naturel fait avec une méthode à l'ancienne. Donc une prise de mousse naturelle, non filtrée. Mm-hmm. Ça donne un cidre avec une belle matière, tout en gardant quand même le côté fruité de la pomme. Un bel équilibre en fait dans la bouteille.
Quand Antoine Gerbel parlait de vin de cidre, c'est vraiment le cas. Hein. Il y a une fermentation noble, naturelle. On a le goût du fruit dans ses amers, dans sa rusticité, mais c'est pas du tout. Et à la fois, c'est très noble et élégant.
Mais il y a ça, et puis il y a aussi des variations sur chaque année, avec une prise de mousse naturelle. Ça peut être aussi zéro mousse. Comme
absolument.
Vous avez goûté hier sur l'extra brut.
Il faut le rappeler, il y a un effet millésime aussi sur les pommes, sur les variétés
bien sûr,
de pommes.
Ouais, ouais, plus ou moins de sucre chaque année, plus ou moins de soleil, plus ou moins d'humidité.
Oui, j'ai beaucoup aimé la cuvée Cloire Carnouët extra brut tranquille aussi hier soir. J'ai trouvé ça très subtil. Et là, on est carrément dans un vin de pomme avec. On évoquait le côté salin. Hein, on a aussi des côtés salins.
Une fermentation plus poussée qui donne justement, qui développe des arômes différents.
On est obligé d'arrêter malheureusement. Recettes et recettes. Sac, un livre sur la pêche à pied aux éditions de l'Épure, ça c'est Patrick Cadour, et merci d'avoir été avec nous. Alghem Road à Saint-Lunaire, Nathalie Hamon et Nathalie Hameline. Grain Noir, une crêpe super vertueuse et militante en plein Saint-Malo, on l'a pas dit, pour des prix même pas supérieurs aux crêpes un peu banales, j'aurais envie de dire, que vous pouvez trouver. Une complète est à 7 euros combien ?
7,50,
la complète. Et puis Étonnant Voyageurs, c'est le Festival International du Livre et du Film que vous pouvez retrouver jusqu'à demain. Et on a bien envie de revenir à 15h pour écouter ici même dans la Rotonde Surcouf le grand atelier de Vincent Josse. Il reçoit notamment Sorge Chalandon, Isabelle Autissier et Annick Cogent. Merci à vous, cher public, pour votre chaleur. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.